7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on retrouve le coach pour entreprendre en Afrique. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous vivez moins dans l'avion, mais vous n'avez pas lâché votre smartphone, je remarque.
Nous vivons avec.
Vous êtes le président d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines. Alors en première partie d'émission, Didier, vous allez conseiller une entrepreneuse qui veut transformer une coopérative de vente de fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Donc cas concret, questions, réponses concrètes, vous êtes prêts?
Comme d'habitude.
Et en deuxième partie d'émission, un débat sur la digitalisation des entreprises.
Enfin, c'est le grand sujet du moment, comme vous le savez. On en a tellement parlé pendant le Covid et plus que jamais, les entreprises ont besoin d'offres digitales
et
dans leur
approche. Et elles se sont beaucoup dit pendant le Covid, si seulement j'avais un vrai fichier informatique de clients, j'aurais pu mieux surmonter la crise. Deux patrons de PME à vos côtés, le Béninois Régis Facia, fondateur de Top Chrono et Top Food, livraison de courriers et de plateaux repas dans plusieurs pays du continent, et Gabriel Fopa qui a créé ITG Store au Cameroun, une société de conseil informatique très internationale maintenant. Ils nous diront comment ils font face aux difficultés économique, et puis ils parleront aussi de leur parcours, ce qu'ils ont appris de leurs échecs, et ils donneront des conseils aux jeunes entrepreneurs. Vous l'avez compris, c'est le moment, les voisins et les voisines, de poser toutes vos questions aux coachs, aux entrepreneurs, sur notre compte WhatsApp. N'oubliez pas, c'est le nouveau numéro WhatsApp, 337 64 45 51 41, 337 64 45 51 41. Didier, vous nous préparez aussi une petite fiche pratique pour bien comprendre à quoi sert la digitalisation de son entreprise, surtout en ces temps de crise. Allez, je vous rappelle le WhatsApp, 337 64 45 51 41, et dans quelques instants, donne la parole à notre entrepreneuse à Abidjan.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Des talents, et il faut tenir le cap hein, en ces temps difficiles. Vous êtes en ligne avec nous, Afi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Afi.
Bonjour Emmanuel.
Le coach est à mes côtés, Didier Akwété.
Bonjour Afi.
Bonjour Didier.
Vous êtes ingénieur en informatique industrielle et vous avez choisi une autre voie il y a plusieurs années. Vous avez créé il y a 5 ans une coopérative de vente de fèves de cacao et café en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Vous êtes dans la région des Ponts, à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Alors, avant que vous nous expliquiez quel est le projet de transformation de l'entreprise, aujourd'hui vous collectez le cacao ou le café, c'est ça, auprès des cultivateurs, et vous les vendez à des exportateurs, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Vous êtes en statut de coopérative, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous dégagez des bénéfices?
En statut de coopérative, ça veut dire que nous avons fédéré des producteurs de café et de cacao, que nous avons mis ensemble, et puis on a créé une société afin de pouvoir collecter leurs produits et vendre à des exportateurs.
Parlez bien fort, s'il vous plaît, Afi, parce que vous êtes au téléphone et il faut qu'on vous entende bien.
J'étais en train de dire que vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une coopérative. J'ai dit que c'est juste qu'on a fédéré des planteurs, des producteurs du café et de cacao qu'on a mis ensemble pour créer une société en bonne et due forme pour pouvoir gérer les plantations en vendant à des exportateurs.
Vous souhaitez faire évoluer le projet de coopérative. Pourquoi? Qu'est-ce que vous souhaitez faire?
Bon, aujourd'hui, on a remarqué que nous vendons nos matières premières, mais de façon brute. Et les bénéfices sont minimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sortis avec beaucoup de producteurs, c'est un peu compliqué. Donc, on a décidé de passer au cap de la transformation où il y a une valeur ajoutée, en fait, pour que tout le monde en bénéficie.
Et quel est le projet de transformation?
En fait, on voulait transformer des fèves de cacao bien séchées, bien fermentées, en liqueur d'alcool de fèves de cacao.
Ouais. Il y a un marché pour la liqueur de cacao?
Oui, en Côte d'Ivoire, il y en a, et puis à l'extérieur aussi.
Et pourquoi vous souhaitez, donc vous nous avez dit qu'effectivement, c'est vrai que beaucoup de spécialistes l'analysent, hein, que l'Afrique vend trop de matières premières et pas assez de matières transformées. On pourrait dire d'ailleurs la même chose pour l'anacarde en Côte d'Ivoire. Oui. Quelle va être votre stratégie pour transformer la coopérative? C'est-à-dire que ça va être une deuxième entité?
Oui, ça va être une deuxième entité. La coopérative, elle reste toujours de base. Et ensuite, ce qui vient s'ajouter, c'est la transformation, c'est-à-dire la possibilité pour nous de pouvoir créer une usine, de transformer soit en semi-fini ou en fini carrément pour revendre ce que nous voulons faire.
Vous avez deux questions à Didier Akwété.
Oui.
Allez-y, on vous écoute, Afi.
Ma première question, en fait, que je voulais adresser à Didier, comment faire pour savoir, après 5 années de création où on a travaillé un peu, comment faire pour savoir que nous sommes mûrs pour l'industrialisation? Vu que là, on parle de transformation, on ne veut plus rester en tant que coopérative, collectant des produits pour revendre à des exportateurs qui vendent nos produits tels qu'ils sont. Comment faire pour savoir que nous sommes mieux?
Et vous avez l'impression que ce sont les exportateurs qui eux, font de la marge?
Ce sont eux qui font de la marge.
Évidemment, l'histoire n'est pas nouvelle. Hein, et on le dit souvent, ça me fait sourire quand on entend le chocolat belge, le chocolat suisse. Puis on y va, on voit pas de champ de cacao, on dit tiens, ça vient d'où? Effectivement, 90% de la marge est faite par les autres. Et Afi a raison, il faut transformer localement les produits, il faut sortir du discours. Oui. Et c'est vrai, c'est sur un marché en plus qui est en croissance. Le marché du chocolat croît, même si après les cours fluctuent et qu'elle peut être un peu sujette à l'inflation.
Alors là, quand même, la demande mondiale de chocolat s'est effondrée depuis la crise du Covid, même si la saison a été plutôt bonne au niveau des récoltes.
Non, les cours peut-être, mais attention, on continue de consommer du chocolat et on va continuer d'en consommer. Même rien que la Chine, avec 1% de croissance de consommation de chocolat, vous voyez le cours qui flambe. Donc, a priori, le marché, si vous voulez, pour l'avenir, je ne suis pas très inquiet. Donc, elle est sur un segment qui est intéressant. La transformation, qui est sa question, évidemment, il faut transformer localement. Et en plus, elle a l'intelligence d'aller sur un marché de niche. Elle dit, je veux faire de la liqueur d'alcool de cacao. Donc, elle ne fait pas du chocolat, comme on en voit des milliards dans toutes les supermarchés. Mais va sur un marché de niche qui me paraît être un marché intéressant. Est-ce que vous êtes mûr? Alors ça, je crois que vous êtes plus apte à répondre à cette question que nous. Mais si aujourd'hui, déjà, vous avez accès à la matière première, c'est une bonne chose.
Oui.
Vous existez depuis 5 ans, vous vendez, vous gagnez un peu d'argent, c'est une bonne deuxième chose. Donc, si vous avez accès à la matière première, que vous pouvez avoir donc accès à une structure industrielle, donc vous allez créer une industrie, j'ai vu le business plan qui est très bien fait d'ailleurs, avec de l'expertise, là vous pouvez gagner votre pari. Mais attention, une fois que vous avez transformé, c'est le marché. Et vous dites, le marché de Côte d'Ivoire, je vais adresser ce marché-là. Et puis vous avez ouvert une brèche. Il y a un marché international. Donc, assez rapidement, parce que l'usine va vous coûter un peu d'argent, il faut regarder tout de suite les circuits de distribution, non seulement en Afrique, bien sûr, en Côte d'Ivoire en Afrique, mais aussi à l'international. Donc, très en amont de ce genre de projet, il faut absolument sécuriser vos marchés pour que, une fois que vous rentrez en cycle de production, vous ayez vos débouchés, d'autant plus qu'il y a une partie du financement qui sera faite par les banques. Et les banques vous demandez quels seront vos débouchés. La structure industrielle, a priori, n'est pas très difficile à mettre en place parce que vous aurez de l'expertise technique qui va vous accompagner, vous comprenez votre marché, vous aurez des partenaires. Et a priori, aujourd'hui, si vous opérez déjà sur un marché qui est un marché de trading, c'est-à-dire vous vendez, vous pouvez tout à fait imaginer la transformation si vous avez un peu d'expertise industrielle ou vous savez vous entourer.
Il faut combien pour monter une usine de transformation de fèves de cacao en liqueur de cacao, qui est un produit en plus qui se conserve bien, hein. C'est vrai que c'est un produit peut-être plus lourd à transporter que le chocolat, mais c'est un produit qui est plus simple à conserver en tout cas. Afi.
Pour mettre en place une usine de transformation, je parle de pas une unité complètement trop grande, mais une unité moyenne, il nous faut pratiquement, on doit aller vers les 10 milliards. Or, de France CFA, nous savons très bien les problèmes africains. Et Il faut dire que nous sommes confrontés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir des financements, surtout dans la position actuelle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais tous les jours, nous nous battons pour essayer de rencontrer des personnes. Mmh. C'est à cet effet même que j'ai apporté cette deuxième question en voulant demander à Didier, par exemple, chaque année depuis 2016. Nous essayons de travailler un peu à hausser notre chiffre d'affaires. Mais est-ce bien la preuve pour notre entreprise, par exemple, qui fonctionne? Est-ce que c'est suffisant pour approcher des investisseurs et comment le faire, en fait?
J'ajoute que vous avez aussi toute une politique de RSE, avant que Didier vous réponde. Je ne sais pas si ça peut être pris en compte aussi par des banques ou si on ne regarde que les résultats financiers, mais il y a toute une prise en compte de RSE pour former aussi des producteurs, donc de responsabilité sociale des entreprises, pour former des producteurs à l'usage bancaire, pour leur permettre eux-mêmes d'ouvrir un compte en banque, et ce qui vous amène d'autres producteurs. Donc vous avez réussi à créer quelque chose pour être attractive pour des producteurs de cacao en tant que coopérative, en tout cas pour le moment, mais ce qui est déjà une preuve de compétence.
Non, mais c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez commencé à créer un écosystème autour de votre business et c'est positif. Oui. Maintenant, pour répondre à la question, vous êtes sur un marché, déjà vous dites, mes ventes augmentent chaque année. Donc c'est plutôt très bien. Ensuite, on va regarder la rentabilité. Est-ce que votre rentabilité s'améliore au fil des ans, et est-ce que vous commencez à gagner de l'argent? Donc le banquier va regarder ces deux éléments. Et trois éléments en termes de perspective, si demain vous vous lancez dans de l'industrie de l'industrialisation, est-ce que vous êtes sûr d'avoir des débouchés, que vos coûts seront inférieurs à ce que vous pouvez gagner? Donc le banquier va s'attarder sur votre rentabilité et les perspectives du marché. Alors comme vous êtes sur un marché un peu sensible, parce que quand même vous connaissez aussi bien le marché que moi, c'est quand même un marché de lobby et puis d'acteurs, de temps à autre le marché n'est pas très transparent avec des concessions qui sont données, etc. Donc c'est un marché qui n'est pas tout à fait simple à mon avis. Donc si vous garantissez l'approvisionnement, parce qu'il faut que j'ai la matière première pour que l'usine puisse tourner. Donc, si vous sécurisez votre matière première et que vous me dites, mon chiffre d'affaires augmente, ma rentabilité s'améliore chaque année, le banquier sera réceptif à ces trois éléments. Et si ensuite vous dites, moi, mon usine, j'ai déjà des débouchés, j'ai des distributeurs qui me garantissent de me prendre 30 de volume la première année, la deuxième année, j'ai presque signé mes contrats, le banquier sera rassuré et l'investisseur d'autant plus, parce que le banquier, à mon avis, va pas faire tout l'investissement. Il va faire une partie, mais vous avez une partie à apporter vous-même et puis peut-être d'autres investisseurs, des individus qui pourraient mettre un peu d'argent. Le banquier viendra accompagner, mais à mon avis, il apportera pas tout ça, les 10 milliards, je pense pas.
Vous avez commencé à prospecter ou pas, fille, pour des investisseurs?
Si on a déjà commencé à prospecter un peu. Par exemple, l'année passée, j'ai échangé avec quelqu'un qui est aux États-Unis et je lui disais comme ça, quand je lui ai apporté même le projet, je lui disais comme ça que je cherchais véritablement des investisseurs pour m'aider à mettre tout ça en place. La première question qu'il m'a posée, il m'a d'abord posé la question du marché. Si jamais j'arrive à réussir le challenge, comment est-ce que je vais commercialiser la marchandise.
Et oui, la liqueur de cacao, oui.
Voilà. Parce que là-bas, il m'a dit comme ça qu'il y avait la possibilité de m'avoir des gens pour... je pouvais faire une ouverture de capital. On avait véritablement pensé à ça, le directeur et moi. Mais est-ce que la transformation, elle allait être totale ou semi-finie? La question que moi, je lui ai posée, je lui ai dit que nous voudrons faire une transformation totale. C'est-à-dire, on fait... Et on obtient directement la liqueur. Il m'a dit, il avait approché des personnes qui, elles, voulaient qu'on fasse une transformation semi-finie. De telle sorte que, quand on faisait partir la marchandise là-bas en semi-finie, eux, ils terminaient le processus et injectaient ça dans leur...
Ils injectaient ça dans leur politique de distribution. Ouais. Et ils récupéraient une partie des bénéfices. Mais ça veut dire que si vous arrivez jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire produit complètement fini de liqueur de cacao, je ne sais pas, Didier à côté, mais ça veut dire qu'il faut aussi toute une politique marketing, de packaging, de tout ça.
Absolument. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait, dans votre stratégie, produire des produits semi-finis que vous vendez à des industriels qui l'intègrent dans leur processus de production. Très bien, votre risque est relativement limité. Et puis, vous lancez des produits finis, vous créez votre marque avec le branding qui va avec, qui sera reconnu. Et j'en vois de plus en plus, d'ailleurs, en Afrique, des marques africaines de produits transformés qui fonctionnent très bien, avec des hôtels qui sont vos, des supermarchés, des hôtels, des restaurants, des bars, où vous imposez votre marque avec, bien sûr, de l'investissement en marketing qu'il faudra faire. Donc, c'est encore une autre stratégie. Les deux ne sont pas incompatibles. Ça vous donne deux ouvertures possibles sur votre business. Et vous vous souvenez, je raconte parfois cette histoire. Je me souviens, j'étais à Shanghai, ou enfin, en tout cas en Chine, il y a une dizaine d'années. Et on est tombé l'équivalent, vous savez, les chaînes Starbucks, là, l'équivalent d'un Starbucks, mais qui a été monté par un entrepreneur tanzanien ou kényan, qui faisait déguster les cafés qui provenaient d'Ouganda et du Rwanda dans cette espèce de café dédié à ça. Oui. Et ça marchait très bien. Et à l'époque, on avait dit, mais il faut absolument que tu étendes ce concept.
On pourrait non faire la même chose, Chine, faire découvrir la liqueur de cacao en Chine, par exemple.
Non, mais, ou même ce serait en Afrique. Alors que dans votre stratégie, imaginez que vous deveniez demain l'équivalent du Starbucks, du cacao en Afrique ou dans le monde. Et donc, vous transformez le cacao à base de différents produits dérivés. Les gens viennent boire votre cacao, achètent le chocolat, achètent la liqueur, achètent des bonbons.
Il faut voir beaucoup plus large que
vous déclinez votre produit sous plusieurs segments, et puis vous devenez le roi des produits à base de cacao Afrique et dans le monde. Enfin,
Didier à côté, il voit toujours très loin. Avant qu'on se quitte, Afi, moi j'ai une question, parce que Didier avait le réflexe de dire le roi du cacao, mais vous êtes une femme sur ce marché, c'est rare, c'est quoi, ça fait quoi d'être une femme dans ce secteur?
Emmanuel, j'ai dit quelque chose peut-être qui va vous étonner. Vous savez, tout à l'heure, en me présentant, vous avez dit que j'étais, enfin, dans mon diplôme, je suis ingénieure en informatique industrielle. Quand on regarde un peu, c'est vrai qu'il y a de l'industrie, mais en réalité, je n'ai pas fait même peut-être pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Et quand Delphine m'a eu au téléphone, en parlant, elle a décidé quelque chose. Vous savez, la première fois où j'ai commencé à travailler véritablement, j'ai travaillé avec un juif qui a tout abandonné chez lui et qui est venu se mettre véritablement dans le cacao. Ça m'est resté en tête, en fait. Et j'ai commencé dans une usine où véritablement j'ai appris les rudiments du métier. Et depuis ce jour, je n'ai pas voulu quitter ce secteur-là.
Ouais. Vous êtes une passionnée, en tout cas, ça s'entend. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas moi aussi. Merci beaucoup, Afi, de nous avoir téléphoné. Didier, vous restez avec nous. On accueille dans quelques instants deux entrepreneurs, patrons de PME. Des patrons de PME qu'on entend finalement assez peu dans les grands médias, alors que ce sont précisément les PME qui, à terme, peuvent jouer un rôle pour l'emploi, pour la survie économique du continent. Et on va discuter de la digitalisation des entreprises. Tout le monde en parle. On a vraiment découvert que c'était le nerf de la guerre de l'économie avec la pandémie. Et on va en discuter un petit peu plus en détail dans quelques instants. Et bien évidemment, les voisins et les voisines, si vous êtes jeune entrepreneur, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41 pour poser toutes vos questions ou pour avoir les conseils du coach aussi lors d'une prochaine émission. On se retrouve dans quelques secondes, ça sera juste après. Djarabi, bébé Baya, une bonne vibration, c'est pour vous, je vous l'offre, allez Didier.
Merci Emmanuel, quelle rentrée. Mina wala, kono de ma mika.
Djarabi Bébé Baya, on est en direct sur RFI, 7 milliards de voisins, avec le coach de retour chez 7 milliards de voisins, Didier Akwété, le président d'Afrique Search. Vous avez eu l'occasion de donner des conseils à une jeune entreprise et maintenant on attaque le nerf de la guerre, la digitalisation des entreprises avec deux patrons de PME à vos côtés, Didier Akwété, qui sont en ligne avec nous. Ils sont sur le continent africain, pour ce qui est de Régis Facia. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, comment allez-vous?
Très bien, on est ravis de vous retrouver Régis Facia. Vous êtes à Cotonou aujourd'hui?
Par ce temps de Covid, forcément je suis à Cotonou, oui. Je ne bouge pas de Cotonou.
Oui, c'est sûr. Bonjour, en ce Régis, moment, on ne se pose Facia. Plus trop de questions. Alors, vous êtes fondateur au Bénin de Top Chrono, il y a 25 ans.
Oui,
et plus récemment, l'année dernière, oui, Top Food, un peu comme une extension du domaine de la livraison du courrier au plateau repas. Vous êtes présent aujourd'hui dans plusieurs pays du continent. 10 millions de colis et de plis transportés depuis 25 ans. Vous êtes parti de presque rien, si ce n'est de la défiance de votre maman qui vous a traité d'aventurier. C'était il y a 25 ans, hein, je précise.
Exactement.
Aujourd'hui,
j'espère qu'elle nous écoute.
J'espère qu'elle nous écoute. J'espère.
Aventurier, il est resté peut-être.
Aventurier, Régis Facia. En tout cas, aujourd'hui, vous employez presque 400 personnes. Vous avez donc créé des emplois, un métier de logistique au départ, mais maintenant avec beaucoup de digitalisation. Vous allez nous en dire quelques mots. À vos côtés, Gabriel Fauppa, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Gabriel
Fauppa. Merci de m'avoir invité.
On est ravis de vous accueillir. Vous avez travaillé 15 ans en France avant de revenir au Cameroun pour créer ITG Store, une société de gestion des données et de réseaux informatiques. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, l'entreprise est très internationale. Vous avez des clients d'ailleurs pas que sur le continent africain.
Oui, absolument. On a des clients aussi sur le marché européen, puisque la digitalisation comporte un truc qui s'appelle la dématérialisation. L'espace n'existe pas.
Ouais.
Si nous sommes capables de servir, de donner un service avec le niveau de qualité qu'attend le client, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, on peut le desservir. Et là, c'est aussi un champ de possibilités. Et puis, on dessert tous les grands groupes sur la place. Pour le moment, nous travaillons avec la plupart des grands groupes, tous les telcos, et les utilities dans les opérateurs d'électricité.
Les opérateurs de télécommunications, électricité et eau. Je traduis.
Voilà.
Hein.
Les pétroliers aussi. Les pétroliers aussi, qui ont des grands besoins d'automatisation dans leur gouvernance, dans leur production, qui ont aussi des grands besoins d'interconnexion, mais qui sont confrontés aussi à des problématiques de sécurité, puisque quand on s'ouvre, naturellement, on n'efface pas les exigences de confidentialité, les exigences d'étanchéité, puisque la clé dans tout ça, c'est l'information. C'est l'information qui, on parle d'informatique, mais au cœur de tout ça, c'est de l'information qui est manipulée.
Alors, vous allez nous donner des exemples aussi pour que le consommateur comprenne mieux. Hein. L'enjeu n'est pas que pour les entreprises, mais aussi pour le consommateur, pour les clients, le client final. Régis Facia, Gabriel Fauppa, dans vos secteurs respectifs, déjà, dites-nous comment vous traversez la pandémie à l'heure actuelle.
Alors, au niveau de la pandémie, je crois que la capacité de résilience de chaque entreprise, de chaque secteur d'activité, de mon point de vue, dépendait véritablement de la stratégie qui a été mise en place par les gouvernements, par les pouvoirs publics. Et lorsque je prends le cas du Bénin, par exemple, nous, on est allé à contre-courant de ce qui se faisait habituellement. Donc, on a choisi de ne pas confiner, parce que nous étions un pays relativement pauvre, on n'est pas un pays riche comme certains pays. Donc, de façon très très forte et très pragmatique, on a choisi de ne pas confiner. Ça a permis aux activités d'entreprise de continuer à fonctionner, à opérer. On a choisi aussi de ne pas fermer les aéroports de notre pays ni les frontières, ce qui voudrait dire que moi, dans mon cas par exemple, j'ai continué à faire mes activités internationales via l'aéroport de Cotonou. Et je pense que ce pragmatisme-là nous a permis véritablement, un tant soit peu, de faire preuve de résilience par rapport aux activités économiques. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que lorsqu'on décide, par exemple, de ne pas confiner, eh bien, il faut mettre en place ce qu'on appelle des gestes barrières.
Oui.
Alors, moi, je vais vous dire une chose. Au Bénin, les pouvoirs publics du Bénin ont décidé de mettre le port de masque obligatoire depuis le mois d'avril. Ça fait bientôt 6 mois. Alors, lorsque je vois aujourd'hui que c'est un débat en Europe de savoir s'il faut, s'il ne faut pas, eh bien, je pense que dans le cas d'espèce, quand je prends l'exemple du Bénin, on a fait un grand pragmatisme et ça a permis à nos entreprises de pouvoir supporter un tant soit peu, je dirais, l'impact négatif de la crise.
Ça veut dire que chez Top Food, pour préparer les repas, tout le monde est masqué, évidemment.
Ah ben évidemment, depuis le mois de... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une responsabilité non seulement des individus, parce que je pense que le port de masque a été rendu obligatoire, et tout le monde a compris que c'était une question de santé publique. Donc partout où on passait, depuis le mois d'avril, à ce jour, le masque est obligatoire. Et je suppose que c'est ça qui a dû permettre quand même un véritable... qui a permis de supporter, je dirais, la pandémie.
Alors je précise Régis Facia, que vous êtes le numéro 2 du patronat béninois, et que donc forcément, le business a dû peser aussi dans les décisions politiques. Gabriel Fauppa, vous, comment vous traversez la pandémie en quelques mots avant qu'on parle de la digitalisation ?
Mais alors, on la traverse plutôt bien. Je pense que le Cameroun a à peu près pris les mêmes configurations que le Bénin. Bon, à l'exception que les frontières étaient un tout petit peu fermées, il y avait juste quelques vols qui permettaient de fonctionner. Mais comme nous offrions déjà des outils de dématérialisation, en fait, ce sont des outils qui permettent de travailler hors de l'entreprise. Et on n'a pas attendu la crise pour pouvoir promouvoir cela, puisque la plupart des grandes entreprises sont localisées dans des grandes cités. Et nous savons que les grands problèmes d'embouteillage font que, quand on donne la possibilité aux collaborateurs de travailler déjà de la maison, ils peuvent commencer à travailler de la maison et puis de venir au bureau à 10 heures ou travailler tout simplement de la maison. Et les statistiques montrent bien que quand on travaille en remote, c'est-à-dire on travaille à distance, même quand on est en mission, on est des fois plus rentable que on est plus productif, je veux dire.
Ouais. Alors, donc, vous avez fait
la pandémie a juste permis effectivement de valoriser, de généraliser, puisque beaucoup d'entreprises, malgré le fait que l'on n'est pas confiné, étaient, pour des raisons de gestion de sécurité, étaient obligées, pour ceux surtout qui étaient des multinationales, de respecter leurs règles de gouvernance internationale. Donc ils ont demandé à leurs collaborateurs de travailler à partir de la maison. Et là, il fallait des outils. Nous avons beaucoup profité de cette crise, effectivement, puisque nous avons été très sollicités. L'autre point important, pour sortir de ce point, c'est que beaucoup de concurrents étaient des grands groupes qui fonctionnent comme des comptoirs, c'est-à-dire qu'ils prennent des commandes et ils font venir des expertises de l'étranger. Et toutes les entreprises qui n'avaient pas des expertises locales étaient coincées puisque les aéroports étaient fermés. Là, nous sommes à peu près 150, un peu plus, et nous formons énormément. Et donc, nous avions la ressource sur place pour pouvoir porter le catalogue de services que nous servions et le service de la dématérialisation, c'est-à-dire la capacité à pouvoir travailler quel que soit l'endroit où on est dans le monde, a beaucoup marché pendant.
On est vraiment dans le cœur du sujet de la digitalisation, Didier Acouetté.
Non, mais effectivement, si vous voulez, je crois que c'est la lecture un peu optimiste que nous donnent Gabriel et Régis au niveau de la crise sanitaire elle-même. Mais après, je crois que beaucoup d'entreprises ont quand même souffert de cette crise. Et lorsqu'on parle d'accompagnement public, beaucoup de gouvernements ont annoncé des mesures d'accompagnement avec quelques milliards à la clé que très peu d'entreprises ont vu en réalité dans les pays. Et quand on estime que peut-être 50% des TPE-PME pourraient fermer, c'est une réalité parce que les plans d'accompagnement n'ont pas été aussi massifs et aussi rigoureusement gérés comme on l'a vu dans d'autres pays.
Pour les très petites entreprises.
Bien sûr, et donc ces entreprises, même si elles se digitalisent, s'il n'y a pas de business, s'il n'y a pas d'accompagnement financier, beaucoup de ces entreprises ne vont jamais se relever. Et on le voit d'ailleurs, le peu de voyages qu'on fait, on le voit dans les pays. Beaucoup de petites entreprises ont fermé.
Donc ça veut dire
surtout dans l'hôtellerie et la restauration, effectivement, ils ne pouvaient pas digitaliser parce que le client ne bougeait simplement pas. Effectivement, dans ces secteurs-là, on a vu beaucoup de... Oui. Beaucoup de casse. On espère qu'à un moment donné, les gouvernements vont prendre des dispositions pour les permettre de surgir. Mais je voudrais terminer sur le point en disant que, avant de rentrer sur l'Afrique, et là c'est un message à la diaspora, quand on a une lecture de nos pays comme des mouroirs ou des endroits très difficiles parce que les médias semblent chanter ces refrains, on se trompe parce que quand on arrive sur le terrain, on voit en fait la matière première de la création d'emplois, ce sont les problèmes. Quand il y a des problèmes, plus il y a des problèmes, plus il faut des créateurs qui vont résoudre ces problèmes-là. Ouais. Donc c'est pour dire que cette situation de crise est une situation effectivement qui va créer beaucoup de soucis pour certaines entreprises.
Je voudrais qu'on revienne à la digitalisation parce que le continent africain ne donne pas une image pour l'instant de continent très digitalisé au niveau des entreprises, des services notamment.
Il y a un élément structurant là-dedans qui est le cœur du réseau. J'entends par le cœur du réseau tout ce qui transite, que ce soit la vidéo, les flux de données, etc. À un moment donné, passe par, comment dire, un trafic et un réseau, ce qu'on peut appeler de grandes autoroutes cœur, qui appartiennent à l'État, souvent. Et ces réseaux-là, pour le moment, coûtent encore très cher. Il y a des pays pour lesquels, pour avoir 5 mégas par mois, il faut payer 1 million, c'est-à-dire 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1 500 €, alors que dans d'autres pays, à 10 mégas, on n'a même pas, on paye à peine 20 € ou 30 €. Là, effectivement, il y a une grande disparité qui n'est que technique, parce que voilà, ça peut être rattrapé.
Didier, non, mais il y a beaucoup de disparités selon les pays. Mais le thème sur la digitalisation est peut-être Régis Facia. Dans quelle mesure la digitalisation a transformé votre business? Et est-ce que ça a été un facteur d'accélération de croissance? Et vous l'avez observé encore plus ou pas pendant cette crise?
Et surtout, si on prend l'exemple de Top Food, hein, où là, tout est digitalisé, enfin, jusqu'au plateau repas au moment de manger. Heureusement que là, c'est pas virtuel, mais on prend commande via une application, Internet, etc. Et la livraison, tout ça, le traçage du plateau repas jusqu'à l'arrivée dans l'entreprise.
Alors, juste d'un mot, Emmanuel, si vous plaît, si vous permettez, j'aimerais revenir sur la pandémie, parce que Didier à côté a fait une réflexion par rapport à la batterie de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. Lorsque je prends le cas du Bénin, parce que c'est ce que je connais, eh bien, les TPE ont été véritablement, je dirais, assistés dans le cadre de mesures qui ont été prises. Donc, je pense que chaque pays a mis en place une approche stratégique pour essayer d'alléger la difficulté aux entreprises, parce qu'effectivement, elles ont...
Sur la digitalisation de votre entreprise, qu'est-ce que ça a apporté, le fait que vous passiez d'une entreprise de logistique de courrier à une autre entreprise beaucoup plus digitalisée avec la livraison de repas?
Alors, au-delà même de la livraison de repas, dire qu'aujourd'hui tout est digitalisé.
Bon, on a un petit problème de ligne téléphonique, Régis Facia. Alors, je vais me tourner vers Gabriel Faupas, parce que Didier à côté, on est d'accord que les entreprises de l'informatique sont directement en prise avec les besoins de digitalisation des entreprises en général.
Non, de toute évidence. Et en réalité, la digitalisation, ce n'est pas juste envoyer un courrier par email. Et nous parlons de processus, nous parlons de gestion de l'information.
C'est la banque, c'est tout ça.
Bien sûr, nous avons vu tous les secteurs.
Il y a un terme fort qui est l'automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'un processus est manuel et peut être opéré...
Vous pouvez nous donner des exemples concrets, Gabriel Faupas, quand même.
Par exemple, une commande peut être émise de manière dictée par la parole et quelqu'un le note sur une feuille. Et puis ensuite, cette feuille est transmise manuellement à quelqu'un qui va ensuite relire un ensemble de choses. Donc,
oui, ça ne marche pas comme ça chez Amazon. Hein.
Voilà. Donc, toute cette partie manuelle est complètement arrachée puisque le client se connecte sur un portail, il touche des menus, il touche des boutons, et les boutons déclenchent en fait derrière des commandes. Mmh. Et les commandes sont tout de suite envoyées chez toutes les parties prenantes qui vont construire la production du résultat ou du service attendu, c'est-à-dire la partie automatisation, la partie capture d'informations, parce que derrière, il va y avoir des statistiques sur l'historique. Oui. Et si je sais faire des statistiques sur l'historique, je vois où j'ai des problèmes, je peux optimiser mieux, je peux me projeter à partir de l'historique pour mieux me projeter.
Oui. Alors justement, le cas concret de Top Food pour Régis Facia, et même d'ailleurs pour l'acheminement du courrier, parce qu'il y a encore du courrier, des documents qui sont acheminés via ce système de poste privé Top Chrono, Régis Facia, qu'est-ce que ça a apporté concrètement, c'était la question de Didier à côté, sur le business?
Alors, il faut dire que le business a été véritablement, je dirais, transformé du fait de la digitalisation. Même par rapport, je dirais, au courrier express, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Il y a le tracking qui nous permet de faire un suivi de ce que nous faisons comme activité. Et lorsque nous avons mis en place Top Food, on l'a mis à partir d'une plateforme où la plupart des clients
officiels... Quand Régis parle du tracking, en fait, il dit que chaque camion a un capteur qui envoie au système d'information toutes ses positions au fur et à mesure qu'il exécute son trajet. Et ça, c'est magnifique.
En temps réel, donc c'est ce qu'on appelle le tracking. Alors, pour la partie Top Food, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est à partir d'une plateforme que la plupart des clients, je dirais, passent leurs commandes. Mais Emmanuel, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au-delà de Top Chrono, de Top Food, on a mis en place une activité qu'on appelle Transportéo, et là, c'est une activité qui est vraiment du fait de la digitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, Transportéo Bénin, qui est une entité qu'on a mis en place avec un partenaire qu'on appelle Transportéo International, gère à partir de Cotonou des livraisons pour, l'agence de la biomédecine en France, par exemple. On transporte des greffons, on transporte tout un ensemble de choses à partir de Cotonou. Par exemple, la semaine
Donc
dernière,
là, on est vraiment dans le domaine strictement médical. Hein.
Ah ben oui, aujourd'hui, nous sommes carrément allés dans le domaine médical. La plupart des clients sont en France, en Israël, au Moyen-Orient, un peu partout, mais tout est géré à partir du Bénin. Le processus de la documentation, la réservation de frais, la traçabilité, et tout cela est fait par un cloud à partir de la voie IP, et je pense véritablement que, du fait de la digitalisation, notre activité s'est complètement transformée, s'est révolutionnée véritablement.
Plus il y a un besoin de sécurité, de traçabilité, d'informations transparentes, plus il faut digitaliser. C'est ça aussi, c'est un gage de qualité.
Non seulement c'est un gage de qualité.
Régis Fassia.
C'est-à-dire que lorsqu'on parle de gage de qualité, ce n'est pas que de la qualité, c'est aussi la transparence par rapport à la clientèle. Donc je pense que le fait d'avoir mis en place un système de digitalisation, ça nous permet non seulement d'être au cœur de l'évolution de l'activité avec tout ce que ça comporte en termes de performance ou de dysfonctionnement, et en plus, ça nous permet véritablement de faire ce qu'on appelle de la rapidité. Donc véritablement, aujourd'hui, les entreprises au Bénin et en Afrique en général sont au cœur d'un processus qu'on appelle la digitalisation et qui est inéluctable à leur évolution.
Didier, à côté.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose.
Oui, Gabriel,
c'est pas le désir d'automatiser, c'est-à-dire d'optimiser les performances, qui explique la raison de la sécurité. Au contraire, c'est la digitalisation qui impose une forte exigence de sécurité. Parce que quand je digitalise, je suis quasiment dans une virtualité. Il a tout à l'heure utilisé un mot cloud. Ça veut dire que les serveurs qui opèrent, qui computent, qui calculent toutes les données, toutes les transactions ne sont pas forcément chez Régis. Ils sont peut-être quelque part hors du Bénin ou peut-être dans un data center hors de l'entreprise. Ça veut dire que tous ceux qui sont malveillants et qui ont le savoir-faire peuvent entrer dans le système et extorquer des données ou torpiller ou vandaliser. Donc il faut qu'en même temps que cette digitalisation soit mise en place, qu'elle contient la dématérialisation, l'effacement de l'espace, que la question de la sécurité soit absolument réglée. C'est-à-dire que tous les flux qui entrent dans le système d'information soient désintoxiqués et que tous les flux qui sortent du système soient aussi neutralisés, parce que souvent le vandalisme vient avec les connivances de collaborateurs internes. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'était juste pour dire
que... C'est intéressant parce que Didier à côté, justement, quand on sait qu'une grosse partie des TPE, vous en parliez, c'est celles qui ont le plus souffert là, de la crise, sont formelles, informelles, beaucoup informelles, comment peuvent-elles avoir accès à cette digitalisation qui va devenir incontournable dans les années à venir pour assurer leur performance, pour assurer leur sécurité, pour rassurer aussi leurs débouchés clients?
Effectivement, si vous voulez, il y a une panoplie d'acteurs. Et c'est vrai, on est quand même écouté par des entrepreneurs qui ne sont pas de la taille peut-être de Top Chrono ou des grosses multinationales qu'on voit sur le continent. En gros, comment vous approchez votre client en minimisant le plus possible les contacts et les points de passage? Et vous vous souvenez, pendant en plein dans la crise, il y avait ce monsieur qui produit des meubles au Cameroun qui disait « Je ne sais pas où sont mes clients, je les ai perdus ». J'ai dit « Bah oui, mais s'ils ne viennent pas, si vous avez leur contact et que vous avez un téléphone, une petite application, ils peuvent tout à fait choisir en ligne vos produits, ils peuvent choisir et vous ne faites que livrer son contact physique. »
C'était la même chose pour les restaurateurs qui avaient perdu complètement la trace de leur clients pour leur vendre des poulets grillés.
Et certains qui avaient eu la chance d'avoir leur contact ont continué de les livrer certains restaurants. Donc, quand on dit digitalisation, c'est aussi ramener ça à une échelle beaucoup plus lisible pour un petit entrepreneur, pour lui dire en réalité, ton business peut continuer de vivre si tu comprends la manière dont tu élimines le plus de chaînons physiques. Et tout ce que disait tout à l'heure Gabriel, tout ce qui peut être automatisé vous permet de gagner du temps en efficacité et en termes de coûts. Donc c'est aussi ça dont nous parlons pour beaucoup de jeunes entrepreneurs et de petites entreprises qui nous écoutent.
Mais est-ce qu'il y a des coûts abordables pour ce type, pour ce niveau d'entreprise, avec des bénéfices, avec des chiffres d'affaires beaucoup plus petits? Est-ce qu'ils peuvent s'équiper tout de même un minimum?
L'accès n'est pas élevé aujourd'hui. Hein. Je pense que Gabriel pourra nous répondre, mais je veux dire, un commerçant qui a une petite application qui lui permet d'interagir avec son client, ça ne lui coûte pas spécialement cher. Hein.
Gabriel, faut pas. Là, on ne parle pas des grandes entreprises sur le continent africain, mais vraiment des très petites entreprises. Gabriel, faut pas.
Oui, allô ?
Oui, oui.
Est-ce que vous m'entendez ?
On vous entend très bien.
Oui, alors, donc justement, pour appuyer le discours de Didier, c'est que, au contraire, la digitalisation et les différents opérateurs qui sont sur le marché permettent de démarrer son entreprise avec presque zéro franc. C'est-à-dire que si je fais un site web, je fais un immeuble sur le site web, on va croire que, voilà, j'ai tous les moyens, et les clients sont à un clic de moi. Ils peuvent être à Tokyo, ils peuvent être au nord du Cameroun, au sud du Cameroun. Si je fais de la tomate séchée, ou je sais pas moi, du gingembre confit, à partir du moment où j'ai un petit site web, je présente mes produits. En plus, il y a des moyens de paiement mobile aujourd'hui qui permet que le client qui est localisé quelque part au fin fond du pays ou hors du pays peut tout de suite commander et payer en la monnaie mobile
et
disponible.
Il n'y a pas besoin d'avoir des très beaux locaux, des très beaux bureaux, très coûteux sur le plan immobilier. Il suffit d'un très beau site.
Exactement.
Il y a un truc qui s'appelle la réalité augmentée.
Ouais.
Et ça, c'est très intéressant pour nos jeunes entrepreneurs de savoir que pour démarrer, la question n'est pas la question des moyens, c'est beaucoup plus la question de passion. Dans quoi est-ce que je suis capable d'apporter un service qui est forcément fortement concurrentiel. Et la solution aussi, ce n'est pas de trouver forcément les solutions, comment dire, les services dits standards, du bois, par exemple, du traitement du bois, jusqu'à la transformation des produits agroalimentaires. Si on prend la CEMAC, par exemple, qui est animée par le Cameroun au centre, tous les produits qui peuvent être transformés, séchés, etc., peuvent être faits, vendus à partir d'une petite plateforme, un petit site web, et mettre à côté un moyen de paiement, donner une réalité augmentée, c'est-à-dire faire des vidéos sur les produits que l'on fait en trois dimensions et permettre aux clients, d'ailleurs, qui économisent en déplacement. Mmh. Et puis, avoir des solutions de téléphonie sur IP. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses, de WhatsApp jusqu'à Telegram. Ils sont nombreux qui permettent, de communiquer, de transacter, et puis de partager, d'échanger. Et donc, les solutions sont là, vraiment.
Régis Facia, justement, vous, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous écoutent, qui se disent, mais c'est vrai, moi, je suis en train de démarrer un projet pas très gros, comment faire pour être plus crédible? La digitalisation est là pour m'aider. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour les jeunes?
Alors, d'abord, je dirais deux choses. Il n'y a pas de petit projet, d'une part, premièrement. Et deuxièmement, il faut, comme dit Gabriel, avoir foi en ce qu'on a envie de faire. Vous savez, en Afrique, on a pas mal de solutions qui ont déjà été établies. Vous savez, lorsqu'on parle de digitalisation pour les petites entreprises, c'est d'abord la relation avec la clientèle. Comment je fais pour accéder à la clientèle et comment on fait pour être payé par ce client-là?
Ah oui.
On n'a pas attendu PayPal pour mettre ça en place. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, le système de paiement par voie mobile est extrêmement développé. Et pour rejoindre ce que dit Gabriel et a dit tout à l'heure mon ami Didier à côté, c'est qu'en mettant en place un petit site web très, très accessible, eh bien, et via WhatsApp aussi, on peut faire des choses. Donc moi, je dirais à ces jeunes-là de ne pas penser qu'il faut beaucoup d'argent pour investir dans la digitalisation. Le simple fait déjà de pouvoir transacter via téléphone mobile est une forme de digitalisation. Le simple fait déjà de pouvoir échanger via WhatsApp, de mettre tout un ensemble de produits sur Facebook, est déjà une forme de digitalisation. Et par rapport à ça, eh bien, je pense que les jeunes peuvent vraiment se positionner dans ce secteur-là et faire en sorte que l'activité se développe progressivement. Après, il faut le facteur temps, il faut le facteur sérieux, il faut le facteur dévouement pour faire avancer l'entreprise.
Didier Akouété, alors, est-ce qu'on peut résumer tout ce qu'on vient de dire sur la digitalisation pour les jeunes qui nous écoutent, parce que ce sont des points essentiels à l'heure actuelle pour se développer, quelle que soit la taille de l'entreprise? Régis Facia vient de nous le dire.
Non, absolument.
C'est la fiche pratique.
Il faut garder à l'esprit, à mon avis, deux choses. Quel que soit le projet, aujourd'hui, on peut gagner en efficacité, en proximité client, grâce au digital, quel que soit le secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je conçois un projet, je dois me poser la question de savoir comment je peux approcher mon client plus vite, plus facilement et à moindre coût. Deuxième question, quand je sais que je connais mon client ou potentiellement je peux le connaître, qu'est-ce que je lui donne comme expérience client qui lui permet de gagner en temps, en coût, etc. Et c'est là où tout ce qui est plateforme de paiement est extrêmement intéressante. Bon, on parle toujours du succès d'M-Pesa au Kenya, dont les transactions représentent plus de la moitié du PIB du Kenya. On le voit dans beaucoup de pays. Ça existe déjà, cette facilité de transactions financières. Et c'est ça la deuxième partie. La troisième partie, c'est comment le client fait pour accéder à son produit. Bon, si c'est un service en ligne ou un compte en banque en ligne, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Mais si vous commandez une paire de chaussures, vous commandez un repas, vous commandez un sac, il faut la logistique derrière pour la livraison. Et c'est là où, en tant que jeune entrepreneur, vous regardez la logistique de livraison pour faciliter tout ce que vous avez pu gagner en amont, au niveau donc de votre client, de son paiement, mais de sa livraison.
Oui, c'est là où il ne faut pas se casser la figure.
Top Chrono est tout à fait indiqué. Là, si c'est au Bénin, vous avez un prestataire de choix comme lui qui s'occupe du end service jusqu'au client et vous avez fait votre job. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui accessible, abordable et qu'on peut étendre à tous les secteurs d'activité.
L'efficacité, la proximité avec le client, l'expérience client pour le paiement et puis ensuite accéder aux produits pour le client. Et là, il vaut mieux que ça soit en effet fluide pour que le client ait envie de revenir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la digitalisation des entreprises. Merci à tous les trois, Régis Facia, Top Chrono, Top Food. Merci à vous, Gabriel Fopa, pour votre entreprise de données informatiques. Merci à vous, Didier, à côté. Vous revenez le mois prochain, Didier ?
Évidemment, Emmanuel.
Pour coacher une entreprise junior et puis débattre ensuite avec d'autres patrons de PME sur un nouveau sujet, ça ne manque pas. Merci aussi à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Comment devenir écolo sans devenir fou ? Didier, est-ce que vous triez vos déchets ? Vous roulez à vélo ?
Je fais ça tous les jours, je vais même à pied, vous voyez, c'est encore mieux.
Et vous pouvez nous appeler bien sûr au 33 7 64 45 51 41. Allez, d'ici là, on va faire baisser la pression. On se quitte avec une bonne boîte à rythme comme vous les aimez, Didier, sud-africaine et multi-influence, Africa Express, The River.
De voisins, c'est fini.